Europe 1.
5h, 7h.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2h pour tout savoir de l'info sans jamais oublier d'en rire. Et ça ne risque vraiment pas avec la présence à mes côtés de celle qu'on appelle dans le petit monde de l'humour involontaire, le phénomène d'Acosta.
Oh là là.
Après l'inoubliable, Céline découvre le principe des roulettes sur les chaises de bureau.
Je reviens. Oh, je m'en vais.
Découvrez Céline chante Chapi Chapeau, mais attention, en version simplifiée, parce que le texte original est quand même un peu technique.
Chapi Chapi, balada, Chapi Chapeau, balada.
Céline D'Acosta, la seule personne au monde à avoir ressenti le besoin de simplifier encore un peu plus les paroles, pourtant déjà pas très complexes, de Chapi Chapeau, sous vos applaudissements. Heureusement, de vous les copains, c'est aussi des éclairages d'un agrégé qui ne tremble pas devant la complexité. En ce 26 mars, 40 ans après les accords de Camp David, Fabrice Dalméda, le monsieur histoire d'Europe 1, revient sur le traité historique de paix entre Israël et l'Égypte.
Merci d'écouter Europe 1 en ce mardi 26 mars. Et très bon réveil à tous, il est 6h. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce mardi 26 mars. Bonjour Céline Kallmann.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Céline.
Une belle allure, une nette victoire. Les Bleus ont largement battu l'Islande 4-0 hier soir au Stade de France pour les qualifications à l'Euro 2020. Un rapport détonnant sur le vrai temps de travail des fonctionnaires d'État. 310 000 d'entre eux travaillent moins que les 35 heures légales. Et puis le Parlement britannique prend le contrôle du calendrier du Brexit après l'adoption d'un amendement hier soir. Nouveau revers pour Theresa May.
Europe 1.
Une formalité donc pour les joueurs de l'équipe de France. Hier soir, ils ont battu l'Islande 4-0, quelques jours après avoir dominé la Moldavie. But signé Samuel Umtiti, Olivier Giroud, qui a marqué son 35e but avec les Bleus. Il se place désormais derrière Henri et Platini. Mbappé et Griezmann ont également marqué devant des supporters tellement fiers.
C'était waouh! Il nous fascine à chaque match.
Ah, c'est magnifique, c'est génial. On s'est régalé vraiment toute la soirée, du début à la fin.
Tous les attaquants ont marqué, c'est vraiment, vraiment super, une belle fête.
Celui que vous avez préféré comme but?
Celui que j'ai préféré, c'est le but de Griezmann. Belle construction, un beau petit piqué comme il sait très bien faire. Super.
Ah oui, les buts sont beaux, mais la possession est ouf, c'est extraordinaire.
Meilleur. On est les meilleurs, c'est voilà. Tout.
Deux étoiles, c'est pas pour rien, et ça va continuer, voilà, on est qu'au début.
Hein, elle est pas belle la vie.
Des supporters heureux au micro de Cyril de la Morinerie. Prochain rendez-vous pour les hommes de Didier Deschamps, ce sera en juin en Turquie. On y revient évidemment avec Jérôme Lacroix dans le journal des sports. Une nouvelle humiliation pour Theresa May. Hier soir, les députés britanniques ont voté un amendement qui va leur permettre d'influer sur le processus du Brexit. Demain, ils pourront organiser une série de votes en donnant leur avis, par exemple, sur le maintien dans le marché unique, sur un nouveau référendum ou encore, voire l'annulation donc de la sortie de l'Union.
C'est un rapport sur le temps de travail des fonctionnaires qui va sans aucun doute faire polémique. C'est le Figaro qui le publie ce matin.
Oui, un rapport de l'Inspection Générale des Finances remis il y a un mois à Gérald Darmanin et voilà ce qu'il révèle. Sur 1,1 million d'agents de la fonction publique d'État, 310 000 travaillent moins de 35 heures. Un peu moins de 200 000 d'entre eux n'ont pourtant aucune contrainte pouvant le justifier. Olivier Samain.
Il y a des fonctionnaires dont on peut comprendre la durée légale plus faible, ceux qui ont des horaires atypiques, travaillent de nuit, travaillent le week-end ou pénibilité. Mais ce que le rapport de l'IGF cible, c'est la situation de ces fonctionnaires qui n'endurent pas ces contraintes et qui profitent malgré tout du même régime. Pas sous la forme d'une durée légale réduite, mais via toute une série d'avantages qui se sont sédimentés au fil des décennies. Par exemple, ces jours ministres, comme il existe des jours du maire dans certaines communes. 7 jours de congé en plus au ministère de la Culture au titre de la semaine Malraux. À l'éducation nationale, ce sont les jours de fractionnement qui permettent aux fonctionnaires du secondaire d'allonger leur congé pour compenser le fait qu'ils ne peuvent pas choisir leurs vacances. Il y a aussi, dans l'administration pénitentiaire, les personnels administratifs qui bénéficient des 5 jours de repos compensateurs de leurs collègues surveillants, alors qu'ils n'ont pas, eux, les contraintes horaires des surveillants. Au total, conclut le rapport de l'IGF, dévoilé ce matin par le Figaro, si on faisait revenir aux 35 heures les quelques 190 000 agents de l'État pour lesquels les dérogations n'ont pas de justification, ça permettrait d'économiser 30 000 postes.
Explication signée Olivier Samain. Emmanuel Macron, Angela Merkel et Jean-Claude Juncker ensemble aujourd'hui à Paris avec le président chinois. Enjeu de cette réunion, tenter de persuader la Chine de canaliser ses ambitions économiques et diplomatiques. La Chine qui a passé avec Airbus l'une des plus grosses commandes jamais réalisées dans l'aérien. 300 avions, prix catalogue 35 milliards de dollars. Pour Loïc Tribault-Laspierre, cette commande est historique.
L'État chinois a décidé de marquer un très grand coup et d'avoir une commande qui est phénoménale, qui est à la hauteur de sa volonté de démontrer au reste du monde qu'il est un acteur majeur et qu'il a les moyens de son ambition économique et politique. L'impact est extrêmement signifiant. C'est tout simplement la consécration d'un choix qui avait été fait de cette gamme de produits, la 320, qui est d'ailleurs un succès phénoménal un peu partout dans le monde. Donc c'est une très très belle opération pour Airbus, mais soulignons-le, indépendamment de tout le talent d'Airbus, c'est la volonté de la Chine de montrer au reste du monde qu'elle est un acteur signifiant, un acteur avec lequel on doit compter et qu'on ne peut contourner.
Loïc Tribault-Laspierre, spécialiste de l'aérien, joint par Maud Descamps pour Europe 1. Scène de violence au Mans où de vives tensions ont opposé les forces de l'ordre et les forains hier qui demandent à continuer à travailler dans le centre-ville. La situation a dégénéré, une caravane a été enflammée, des voies SNCF bloquées. Un manifestant a été blessé à la jambe et la mairie a dû être évacuée.
Une révolution dans le milieu de la justice.
Une application va être présentée ce matin, elle va permettre de saisir le juge administratif par internet pour faciliter les recours. Ça s'appelle Télérecours Citoyens, les explications de Laure d'Autriche.
Ce sont 90 000 recours qui chaque année en France pourront désormais être déposés via internet. La plupart du temps, des particuliers saisissent la justice pour contester une décision concernant leurs impôts, un permis de construire et aussi de plus en plus souvent sur des sujets liés à l'écologie, la contestation d'un projet d'éolienne près de chez soi par exemple. Avec cette application, plus besoin de contacter le tribunal, vous déposez votre dossier vous-même et cela permet de faire des économies, détaille David Moreau, secrétaire général adjoint du Conseil d'État.
Quand on demandait du papier, les personnes se retrouvaient à faire 300, 400, 500 pages de papier parce que quand on saisit un tribunal, il faut non seulement envoyer sa requête en un exemplaire, mais il faut en plus faire une copie de tout le dossier pour la partie adverse. Donc ça pouvait faire des gros envois avec des coûts postaux qui peuvent être de l'ordre de 20, 30 euros quand on est en recommandé, bon, et en plus des délais d'acheminement. Aujourd'hui, l'application en remplace tout.
Avec le recours sur internet, chacun peut ensuite être informé en temps réel de l'avancée de son dossier, étape par étape.
Laure d'Autriche. Mathieu, une petite idée de vacances pour cet été.
J'en cherche justement.
Dans l'ouest du Mexique, il existe un hôtel dans la ville de Tequila qui propose de dormir où ?
Dans un hôtel.
Dans une barrique de tequila.
Alors ça, je cherchais des vacances pour vous, justement.
C'était notre rêve,
je vous emmène.
Les 34... Bah oui.
Déception pour Eva Rock, déception.
Les 34 répliques agrandies sont réparties dans un champ d'aga. Vous savez, c'est la plante dont est extraite la boisson.
On est parti. Je vous emmène.
On y va ?
Je vous entraîne. On y va, en chambre de luxe, au cœur de la barrique de tequila. Merci, c'était le journal de Céline Kallmann, une grande professionnelle qui fait partie de ces gens qui estiment qu'on est journaliste 24 heures sur 24. Elle ne décroche jamais, elle vit pour l'investigation journalistique, des investigations qu'elle poursuit même durant les reportages de ses journaux, car rien ne lui échappe.
T'as fait une couleur de cheveux, non ?
Comment ?
T'as pas fait une petite couleur de cheveux ?
Rien. Bah non, mais c'est parce qu'ils étaient beaucoup attachés ces derniers temps. Donc là, ils sont lâchés, donc c'est un peu plus long.
Non, j'ai l'impression.
Pas de cash investigation tous les jours, pendant les pubs, avec Céline Kallmann et Céline Dacosta.
Europe 1.
Et les 6 invités, Mathieu Noël.
À suivre, c'est historique, le fact-checking par l'histoire. Et aujourd'hui, 26 mars 1979, 26 mars 2019, il y a 40 ans, jour pour jour, l'Israël et l'Égypte signaient un accord de paix historique. À l'heure où le Proche-Orient s'abîme à nouveau dans la violence, que reste-t-il de l'esprit des accords de Camp David ? Réponse dans un instant avec Fabrice Dalméda.
Il est 6h10, Mathieu Noël.
L'heure d'un point sur la météo de ce mardi avec vous. Céline, une journée globalement ensoleillée.
Mais oui, ça va être
positif. Vous ne prenez jamais de risque, vous, avec ce globalement.
C'est ça, on aura beaucoup de soleil quand même. Sur l'ouest du pays, toute la moitié sud, ça c'est sûr. Là où ça va rester bien couvert et même pluvieux, c'est sur la Corse, avec un vent soutenu et même quelques flocons sur les sommets. Et ça toute la journée. Des nuages, on en aura aussi sur le nord-est et puis en descendant vers le centre-est ce matin. Il y en aura un petit peu moins cet après-midi. Avec le retour de larges éclaircies, ça s'arrange. Le vent de nord sera bien présent, surtout près de la Méditerranée. Et puis, on va perdre 1 ou 2 degrés par rapport à hier, mais on reste quand même proche des valeurs de saison.
Merci Céline. Eva.
Diana Ross a aujourd'hui 75 ans. À cette occasion, depuis ce matin, à 5h, on vous demande quel est votre titre disco préféré. Eh bien, Caranoïac et Bubblegum nous ont répondu la même chose. C'est ça. C'est vrai qu'on reste sur la piste de danse avec ça.
Moi-même, roller, en roller, c'est la piste de danse, on danse en roller, je m'imagine.
Oui, c'est vrai, comme dans la boum. Vous vous souvenez ou pas ?
C'est peut-être ça ma référence, alors oui. Oui, certes. Merci beaucoup, Eva.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Nous a rejoint en studio notre coach sportif. Jérôme Lacroix connaît les sports. tous les sports. Après un gros travail de persuasion de plusieurs mois, il a même dernièrement réussi à convaincre sa dulcinée, Céline Dacosta.
Et c'est vrai que quand tu le fais, tu te dis, c'était rapide, j'aurais dû le faire avant.
Voici Jérôme Lacroix pour le journal de tous les sports. À la une ce matin, GG. Les bleus du foot nous font plaisir.
Il est clinquant, le succès d'hier soir face aux Islandais. 4-0 et 64 500 spectateurs aux anges au Stade de France. Parce que les Français ont fait le spectacle face à une opposition, oui, relativement faible. Mais c'est un deuxième succès en deux rencontres éliminatoires pour l'Euro 2020. Alors hier soir, Samuel Umtiti a marqué, tout comme chaque membre du Brelandas en attaque. Kylian Mbappé, auteur par ailleurs de deux passes décisives. Antoine Griezmann et puis Olivier Giroud, 35e but en bleu, le voilà ce matin. Troisième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. C'est un but de plus que David Trezeguet.
C'était une belle opportunité pour moi ce soir de lui passer devant, mais c'est d'autant plus une grande fierté parce que j'aimais beaucoup, beaucoup le joueur. C'était pour moi une référence au poste d'avant-centre. Donc, ouais, c'est bien maintenant. On va y aller étape par étape et j'espère rejoindre Platini. On verra.
Eh oui, Platini, il est à 41 buts, ça paraît atteignable pour Giroud qui est à 35. Le premier meilleur buteur de l'histoire des Bleus, ça reste Thierry Henry, 51 buts. Giroud avec Mbappé et Griezmann, ces trois-là ont inscrit 12 des 15 derniers buts des Bleus.
Prochains adversaires, les Turcs.
Le 8 juin, les Français se présenteront en Turquie au premier du groupe avec 6 points. Même pécule toutefois que ces Turcs, Didier Deschamps l'annonce en Turquie, ça soufflera fort.
Maintenant, penser, ça y est, on est qualifié. Non, non. Déjà, le prochain, chez nos amis turcs, ça va être chaud bouillant. Donc, mais on a ces 6 points, donc on est sur notre tableau de marche.
Et avant ce Turquie-France le 8 juin, donc, on retrouvera les Bleus le 2 juin à Nantes. Match amical face à un adversaire encore à définir. Des matchs d'hier soir, on retiendra le nul 1-1 à domicile des Portugais face aux Serbes. Ronaldo est sorti blessé dès la première période. Par ailleurs, succès 5-1 des Anglais au Monténégro.
Un rendez-vous d'importance pour l'équipe de France de foot féminin.
Corinne Diacre doit dévoiler ce matin la liste des joueuses appelées à affronter le Japon et le Danemark les 4 et 8 avril en amical. Mais cette sélection d'aujourd'hui, eh bien, c'est la dernière avant la liste des joueuses, celles retenues pour disputer le mondial en France à partir du 7 juin. L'actualité sport de la nuit, c'est le tennis et plus de Françaises, Français au tournoi de Miami. Caroline Garcia éliminée cette nuit en 8e de finale par la Tchèque Kvitova, 2e mondiale. Le Suisse Roger Federer s'est lui qualifié pour ses 8e de finale en éliminant le Serbe Krajinovic, 103e mondial.
On termine, Jérôme, avec l'histoire du jour.
Oui, c'est la réponse de Nathalie Bois-Delatour, présidente de la Ligue française de foot, au propos de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, qui s'indigne ces derniers jours des nombreux chants ou insultes homophobes qui fusent parfois des travées des stades pendant certains matchs. La ministre veut sanctionner. La présidente de la Ligue prône ce matin dans le journal Le Parisien aujourd'hui en France le dialogue et la sensibilisation. Pour les supporters, les chants homophobes font partie du folklore, dit-elle, toutefois en condamnant ces pratiques.
Merci, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Et voici à présent un des moments les plus solennels de notre matinale. Il faut dire qu'un agrégé, Céline Dacosta, n'en avait jamais vu en vrai avant, d'où l'infini respect qu'elle lui témoigne chaque matin lorsque retentit son jingle.
Europe 1.
C'est historique.
Oui, c'était un éternuement historique hier. On passe à la rubrique histoire de Fabrice Delmeda.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice Delmeda.
Bonjour à tous.
Ça bouge au Proche-Orient avec la fin de l'État islamique en Syrie, mais aussi des tirs de roquettes à Gaza, les ripostes de l'armée israélienne, la reconnaissance par le président Trump de la souveraineté israélienne sur le Golan, sans oublier la guerre au Yémen. Or, le calendrier nous rappelle un des rares éléments de stabilité dans la région, le traité de paix entre l'Égypte et Israël, signé le 26 mars 1979. Ce fut un tournant historique.
Oui, le traité a changé les logiques de la région. Depuis 1948, avec la proclamation d'Israël, les États arabes s'étaient alliés pour combattre ce nouveau venu. Les guerres de 48, de 56, de 67, de 73 ont placé l'Égypte dans une situation délicate, limitant l'exploitation du canal de Suez, une des principales sources de revenus, pour développer son pays et contre sa propre opinion publique. Anwar el-Sadat, le président égyptien, va tout risquer en changeant de stratégie. Il accepte de se rendre en visite officielle en Israël en 1977. Puis il négocie et signe en 1978 les accords de Camp David avec le premier ministre israélien Menachem Begin sous l'égide du président américain Carter. Enfin, le 26 mars 1979 à la Maison Blanche, les trois hommes signent le traité de paix.
Et comment se sont déroulées les discussions ?
Alors Carter a servi d'intermédiaire et de garant pour réduire les prétentions de chacun. Begin et Sadat sont deux guerriers, mais ils comprennent les avantages de la paix. Au final, Israël renonce au Sinaï et l'Égypte accepte de laisser circuler des navires israéliens par le canal. Surtout, chaque pays reconnaît l'autre.
Et ça a marché.
Ben oui. Malgré l'assassinat de Sadat en 1981, l'exclusion de l'Égypte de la Ligue arabe jusqu'en 1990, en dépit des graves crises du Liban, des intifadas, le traité a limité la propagation de la guerre dans la région. Et l'Égypte a encore joué les médiateurs ces derniers jours entre Israël et Gaza. C'est donc une paix froide, sans illusion, mais qui permet à chacun de vivre et de se construire un avenir.
Merci beaucoup Fabrice Delmea. L'histoire à la rescousse de l'actualité, on vous retrouve demain peu avant 6h15.
Europe 1, 5h-7h, Mathieu Noël.
Debout les copains continue, 2 heures d'actu et d'invités qui la font. Ce matin, on va parler non pas de l'Europe, mais de votre Europe. Oui, on a tous un avis sur l'Union Européenne, et qu'il soit intéressant ou pas...
Quelle idée ils ont eue quand même avec ce Brexit.
On doit pouvoir l'exprimer. C'est l'idée qu'a eu le mouvement citoyen Civico Europa, qui a lancé We Europeans, une vaste consultation internet, un peu sur le mode du grand débat, pour connaître les propositions et mesures phares souhaitées par les Européens. Les résultats sont tombés, ils viennent d'être présentés au Parlement Européen. À 6h20, on en parle avec Guillaume Clossa, l'initiateur de cette grande consultation.
Bon réveil à tous, il est 6h17. Il est 6h19, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Dans 2 mois, on vote pour les élections européennes. La ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, doit annoncer sa démission du gouvernement afin de mener la liste La République En Marche pour les élections. Pascal Canfin, qui figurera sur cette liste, a lui démissionné de son poste de directeur général du WWF France. Près d'un quart des Français boit trop d'alcool, selon l'agence sanitaire Santé Publique France. Une campagne est lancée aujourd'hui. Le message pour votre santé, c'est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. Enfin, comme dans un rêve, on parle football. La France s'est amusée hier soir face à l'Islande, battue 4-0 au Stade de France en éliminatoire de l'Euro 2020.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici pour les titres de ce 26 mars et 26 mars, 26 mai. Dans pile 2 mois, ce sera les élections européennes. Bonjour Guillaume Clossa.
Bonjour Mathieu.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes le président du mouvement Civico Europa et vous êtes à l'initiative de la plus grande consultation citoyenne jamais lancée en Europe. Étude intitulée We Europeans, menée dans 27 pays de l'Union Européenne. Le Royaume-Uni a été laissé de côté pour cause de Brexit. Si on veut résumer, c'est le grand débat, cher Emmanuel Macron, mais à l'échelle de l'Europe ? Ça s'inspire de ça ?
Pas du tout d'abord, parce que le projet, c'est un projet que Civico Europa et MEC ont commencé à travailler il y a plus de deux ans. Et notre conviction et notre intuition, elle était préalable, c'est que la démocratie participative et la démocratie représentative doivent se compléter l'une l'autre et qu'il y a un énorme désir de participation des citoyens et des citoyens européens. Et c'est ce qu'on a vu, parce qu'il y a 38 millions de personnes qui ont été touchées. 1 700 000 ont participé de manière active. Pour vous donner une idée, c'est 2 fois plus que pour des consultations nationales équivalentes, ce qui veut dire qu'il y a une appétence des citoyens européens pour le débat européen qui est extraordinaire.
Ah, ça, c'est un premier point intéressant, parce que l'euroscepticisme dont on nous rebat les oreilles et qui est martelé par les partis populistes aux quatre coins de l'Europe, en fait, c'est un mythe. Il n'y a pas d'euroscepticisme, il y a au contraire une envie d'Europe, c'est ce que vous avez ressenti.
Il y a une envie de participation au projet européen des citoyens qui est massive. Et si vous regardez les eurobaromètres, l'utilité du projet européen n'a jamais été perçue autant par les citoyens de toute l'Europe, et ça n'a fait que remonter depuis le vote du britannique du Brexit il y a 3 ans. Donc il y a cette réalité-là, et le sujet c'est comment réinventer l'Europe concrètement, parce que tout le monde sent que l'Europe a été pensée à une époque qui n'est plus la même.
Il faut réinventer l'Europe.
Et qu'il faut apporter des contributions qui permettent de rassembler les Européens pour avoir un terrain d'entente.
Alors, vous l'avez dit, Guillaume Clossa, plus de 1,7 million d'Européens ont participé à cette enquête en apportant leurs idées pour réinventer l'Europe concrètement. On a donc les résultats. C'est quoi le top 5 des préoccupations des Européens ?
Extrêmement intéressant, ces préoccupations. La première, c'est l'environnement qu'on voit, qui est massive, hein, et partout en Europe. La deuxième préoccupation très partagée, c'est la démocratie et le fonctionnement des institutions, avec une volonté de contrôle sur les élus, tant nationaux qu'européens, très forte, une volonté de plus grande transparence, de contrôle des fonds européens, et on sent aussi un besoin d'information parce que les citoyens se considèrent plutôt mal informés par le sujet européen. Et puis il y a des sujets qui sont un peu moins fédérateurs, les questions sociales, avec une préoccupation très claire pour l'avenir des retraites et de la santé, et les questions de justice fiscale, plutôt à l'ouest de l'Europe, les pays qui sont massivement financés par l'impôt, avec le souci d'une fiscalité égale pour les multinationales et les entreprises locales.
La question migratoire, dont on parle beaucoup dans les médias, les questions de l'emploi, ça n'apparaît pas dans les préoccupations, enfin en tout cas en top priorité, ça n'apparaît pas.
Alors comment... moi, ça m'a surpris, l'absence de trois questions m'ont surpris. Migratoire et insécurité, qu'on aurait pu penser très importante. Et en fait, ça apparaît si vous consultez les gens avec un choix de questions limitées, en disant voilà, entre les migrations, la sécurité, etc., quelles sont vos préoccupations.
Mais en question ouverte, ça ne revient pas.
Mais non, parce que finalement, d'abord, la crise migratoire et la crise sécuritaire s'éloignent, donc ce n'est pas la préoccupation urgente du moment, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'existe pas et qu'elle ne peut pas revenir, mais en question ouverte, les gens pensent plutôt à des choses qui peuvent faire avancer et qui ne divisent pas. Et en effet, l'emploi, et alors ça, j'ai voulu comprendre pourquoi. D'abord, vous avez remarqué que même dans le grand débat que vous avez mentionné, l'emploi n'est pas un sujet qui est au cœur de l'actualité. Et dans la plupart des pays européens, en fait, les taux d'emploi sont les plus élevés depuis 2007 ou depuis 2000. Donc la situation par rapport à l'emploi va plutôt bien, voire très bien dans la plupart des pays européens, même si ce n'est pas le cas en France.
Les mesures voulues par les Européens ont été présentées au Parlement à Bruxelles. Est-ce qu'on peut imaginer une suite concrète à ces propositions ? Qu'est-ce qui va se passer maintenant qu'on sait, qu'on a fait cet état des lieux ?
D'abord, vous dire que ces mesures, 10 propositions fédérant les Européens, ont été présentées, portées par des citoyens européens au Parlement à Bruxelles, qui venaient de toute l'Europe, et la plupart de ces gens n'avaient jamais été dans un débat européen ou à Bruxelles. Et elles ont été présentées aux présidents des principaux groupes politiques européens qui se sont engagés à les reprendre dans leur programme. Par exemple, le PPE a dit « je reprends 4 des 10 propositions ».
Pour les prochaines élections
européennes. Le président du groupe Les Verts s'est engagé pour en reprendre la totalité. Donc c'est très intéressant parce que ça veut dire que déjà il y a un premier débouché. Puis le deuxième débouché, c'est que Oui Européenne va contacter l'ensemble des candidats aux élections européennes pour les amener à se positionner. Et les informations seront disponibles sur le site Oui Européenne où les citoyens auront la possibilité de voir comment les différents partis
répondent
et se positionnent. Et ça va être une aide très pratique au choix politique européen.
Pour finir, la date limite pour l'inscription sur les listes électorales, c'est le 30 mars, dans 5 jours. On a parfois l'impression que l'Union européenne est une telle usine à gaz institutionnelle, législative, qu'on se sent un peu tout petit. On se dit que son vote ne va pas servir à grand-chose. Donnez-nous une bonne raison d'aller voter le 26 mai prochain.
La consultation Oui Européenne montre que les gens ont besoin d'Europe et ont le sentiment que l'Europe est utile dans un monde qui n'est plus européen. Et l'élection européenne, c'est le seul moment où on peut avoir un impact sur le cours de l'Europe.
Merci beaucoup Guillaume Clossin. Rappelle que vous êtes l'initiateur de la consultation Oui Européenne avec la plateforme make.org. Merci d'avoir été
Europe 1, les 6h25, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue sur Europe 1 avant de retrouver le journal de 6h30 du fascinant David Doucan, la météo. Et cette fois-ci, je m'y engage, soleil pour tout le monde aujourd'hui. Hein Céline ?
Oui, tu peux. Il est 6h27, Mathieu Noël.
On fait un point sur la météo avec vous, Céline Dacosta. Encore des nuages pour le nord-est aujourd'hui.
C'est bien nuageux, des Ardennes au Grand Est, en Bourgogne et puis en descendant jusqu'au nord de l'Auvergne. Le tout parfois accompagné de brouillards. Brouillards qui peuvent déborder un petit peu sur l'Île-de-France, la pointe nord ou encore la région centre ce matin. Pour tous les autres, ça sera ensoleillé, à part sur la Corse où là le temps va rester agité ce matin et cet après-midi, hein, toute la journée, avec de bonnes rafales de vent sur les caps jusqu'à 110 km à l'heure. De la pluie, de la neige sur les sommets. Côté température, Ça baisse encore un petit peu ce matin avec une moyenne de 2 à 9 degrés. Il en fait 3 à Brest, 6 à Paris, 9 à Nîmes. Ça grimpe un petit peu quand même du côté de Toulon notamment, puisqu'on a 14 degrés en ce moment.
Et cet après-midi ?
Ça va rester très perturbé, je vous le disais, pour la Corse. Des nuages présents sur le nord-est, mais partout ailleurs, le soleil brillera avec un petit peu plus de nuages de la Normandie à la Bourgogne et en Alsace. Côté thermomètre, ce sera sensiblement la même chose qu'hier. Une moyenne de 9 à 13 degrés sur la moitié nord avec 13 à Paris, 13 à 17 pour la moitié sud, jusqu'à 19 pour la maximale du côté de Montpellier.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h. Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui est un peu comme Queen en 1990. Il veut tout, l'info, le rire et même des délocalisations glamour. C'est l'incroyable idée qui a germé dans mon esprit, toujours fécond, surtout peu au fait des réalités économiques d'Europe 1, délocaliser Debout les copains sur la Croisette pendant le Festival de Cannes. L'occasion de constater que lorsque je veux vraiment quelque chose, je suis prêt à me battre comme un dingue. Enfin, au moins pendant 17 secondes. Ah attends, Festival de Cannes, vas-y, on fait une déloc au Festival de Cannes, c'est compliqué ?
Ah oh, ça serait Cannes.
C'est compliqué ?
Non, moi je suis sûr que je serais pas avec.
Faut demander, mais c'est
bien. Et en ce moment, on se met en smoking, je demande à Arnaud.
Mais bon. Il faudrait qu'on soit sûr de pouvoir choper des comédiens. Ou...
Ah ouais, tu veux une production
Bah non, mais il faut qu'il y ait du monde
qui
vienne.
C'est trop compliqué en fait, on s'en fout. Voilà comment l'idée chemine dans ma tête. À suivre. Politique, économie, médias, les trois fantastiques brûlent d'envie de partager avec vous leur analyse et leurs conseils. Au programme, entre autres, aujourd'hui, vous êtes actuellement à la recherche d'un emploi. Axel de Tarlé vous dévoile les secrets d'un CV gagnant. On y vient, mais d'abord, nous avons rendez-vous avec une autre forme de gagnant, l'aventurier du news, David Doucan.
J'ai déjà fait du parapente, j'ai très peur.
Oui.
Vous écoutez Europe 1, il est 6h30. 5h-7h, Mathieu Noël.
Voici le journal de 6h30, présenté donc par David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin.
Encore des images d'émeutes urbaines au Mans. Et cette fois, ce sont les forains qui se sont déchaînés en cause un conflit avec la mairie. Reportage dans un instant. Voilà qui est fait. La République En Marche a une tête de liste pour les européennes. Pour l'instant, elle est toujours ministre. Mais Nathalie Loiseau va démissionner dans les prochaines heures. Il y a 2 mois, Michel Legrand nous quittait. Un spectacle lui est consacré à partir de ce soir au Théâtre de Poche à Paris. Vous entendrez son épouse à la fin de ce journal.
Europe 1.
Sans doute avez-vous vu ces images, des affrontements en plein cœur de la ville du Mans hier entre forains et forces de l'ordre. La raison de la colère, la mairie, veut que la fête foraine s'installe en périphérie. Les patrons de manège préfèrent le centre-ville. Reportage sur place Jean-Jacques Herry.
19h30 hier soir, les engins de voirie finissent de déblayer les restes d'une caravane brûlée. Ce rond-point proche de la mairie a été l'épicentre des affrontements entre forains et forces de l'ordre. Norman Bruch est le président du syndicat forain Sidunati. Pour lui, quitter le centre-ville a trop d'impact sur les revenus des forains.
Au moins 50%. On ne demande pas de subvention, on demande juste de travailler. Mais monsieur Le Foll, lui, il fait tout le contraire.
Plus que les dégâts occasionnés, c'est le nombre de personnes présentes, entre 300 et 500, qui était impressionnant, raconte ce témoin.
Ils étaient énormément. Les forains avaient installé des barrières en béton en plein milieu de la route et ils bloquaient tout partout.
Les forains ont aussi empêché la circulation des trains en s'asseyant sur les voies ferrées, avant de bloquer l'autoroute A11 dans les deux sens. Des actions lourdement condamné par Stéphane Le Foll, le maire de la ville.
Il y a des gens qui ont décidé d'aller jusqu'au bout dans une logique de la confrontation. La preuve, c'est qu'ils étaient venus avec des casques, des battes de baseball. On ne peut pas avoir comme préalable une action de cette violence-là.
Et les forains doivent à nouveau se réunir ce matin pour définir les actions qu'ils comptent mener dans la journée. Ils pourraient bénéficier de renforts venus de toute la France face à un dispositif de sécurité qui lui aussi devrait être renforcé. Le Mans, Jean-Jacques Herry, Europe 1.
C'est maintenant officiel, Nathalie Loiseau, pour l'instant toujours ministre de l'Europe, a été investie. Non mais Mathieu,
mais quoi donc ?
Non mais vous intervenez juste à la fin du reportage pour me déstabiliser.
Je disais que le journal était très intéressant.
Reprenons Mathieu Noël. C'est maintenant officiel. Nathalie Loiseau, pour l'instant toujours ministre de l'Europe, a été investie tête de liste de La République En Marche pour les élections européennes du 26 mai. Alors est-ce une techno ou une combattante ou bien les deux ? Portrait signé Adrien Beck pour Europe 1.
Comme un contre-pied aux autres partis qui ont choisi de jeunes têtes de liste, La République En Marche entend miser sur l'expérience. Nathalie Loiseau, diplomate, ancienne directrice de l'ENA, issue du centre droit, portera la liste. La ministre des Affaires européennes a le profil parfait, à en croire un membre du gouvernement. L'ambiance en Europe est anxiogène, il faut quelqu'un qui sache naviguer. D'autant que Nathalie Loiseau, issue de la société civile, est rentrée dans le combat politique. Elle sait parler d'autre chose que de Bruxelles, salue un proche d'Édouard Philippe. Prime à l'expérience, donc, y compris sur le reste de la liste, qui se veut ouverte du centre droit aux écologistes. liste, avec notamment l'ancien ministre et ancien eurodéputé vert Pascal Canfin, sans oublier le modem de François Bayrou. Avec un tel casting, un poids lourd d'En Marche espère, c'est jouable d'être devant le Rassemblement national. Ce serait triste qu'on n'y arrive pas.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1. La ministre doit maintenant démissionner. Cela entraînera un remaniement. On parle du conseiller Europe du président pour la remplacer, Clément Beaune. Autre point d'interrogation, Benjamin Griveaux pourra-t-il en profiter pour sortir du gouvernement afin de se consacrer à son ambition municipale à Paris? Une humiliation de plus pour Theresa May. Les députés britanniques ont pris le contrôle du calendrier parlementaire du Brexit hier soir. La première ministre y était opposée. Trois de ses secrétaires d'État ont carrément démissionné pour pouvoir voter contre elle. Maintien dans le marché unique, nouveau référendum, annulation pure et simple, ou bien Brexit dur, sans accord. Les députés voteront sur tous ces sujets demain. La visite du président chinois en France, Xi Jinping, sera face à l'Europe aujourd'hui. Rencontre au sommet à Paris avec Emmanuel Macron, Angela Merkel et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Le Pentagone a annoncé avoir débloqué $1 milliard pour la construction du mur à la frontière mexicaine. En tout cas, une section de 91 km dans la région d'El Paso. Une manière pour Donald Trump de contourner partiellement la Chambre des représentants démocrates qui refuse de financer cette promesse phare de sa campagne de 2016.
À suivre dans ce journal, vous fumez moins, tant mieux. Reportage avec les agents de tabac info service dans un instant, à tout de suite.
Il est 6h34. Il est 6h35, Mathieu Noël.
La suite du journal David Ducamp avec un bon chiffre, 1 600 000 fumeurs quotidiens en moins depuis 2016.
Oui, chiffre annoncé hier par Matignon, la conséquence des multiples politiques publiques mises en œuvre. Tout cela fonctionne. Reportage à la plateforme téléphonique de Tabac Info Service, Hélène Terzian.
Tabac Info Service, Charlotte, bonjour.
Au standard, les conseillers ont bien vu qu'il se passait quelque chose, plus 10% d'appels en un an. Ce jour-là, c'est un étudiant qui appelle.
Vous avez commencé à arrêter de fumer ce matin ? Vous avez commencé à fumer à quel âge, monsieur ? 16 ans. Vous avez déjà fait un arrêt du tabac avant celui-ci ? Ce que je peux vous proposer, c'est un accompagnement téléphonique avec un de nos tabacologues.
Le plus souvent, les appelants ont peur pour leur santé et pour leur portefeuille. Preuve que les mesures prises par l'État sont efficaces, estime Olivier Smadjamé, le responsable de Tabac Info Service insiste, il faut aller vite et assurer un suivi personnalisé.
Ce sont dans les jours qui suivent l'arrêt du tabac qu'il y a le risque le plus important de reprendre la cigarette. Donc on essaye d'être particulièrement présent au moment où la personne serait susceptible de reprendre. Et on essaye d'adapter les traitements à la situation de chacun des appelants.
Des traitements de substitution nicotinique, patch, gomme, mais aussi un accompagnement psychologique et pourquoi pas la cigarette électronique.
Hélène Terzian pour Europe 1. 2 mois, jour pour jour, après le décès de Michel Legrand, le théâtre de Poche Montparnasse à Paris propose à partir de ce soir un spectacle Michel Forever pour se souvenir du compositeur. Macha Meryl, son épouse, qui a donné son accord pour ce projet, est à la fois émue et enthousiaste.
C'est pas un hommage, c'est un spectacle inspiré par les musiques de Michel Legrand. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire. Parce que Michel, il aurait détesté les hommages, les commémorations, tout ça, c'était vraiment pas un truc qui l'amusait. Par contre, continue à faire vivre sa musique. Donc il y aura des chansons, il y aura des extraits de films, il y aura des extraits de même de certaines musiques classiques. Et c'est ça qui caractérise l'œuvre de Michel. Il attachait la même importance à une chanson qu'à une musique de film ou à un concerto. Et je pense que comme toutes les musiques de Michel, on va être joyeux mais on va pleurer aussi. C'est à la fois très bouleversant et aussi très dynamisant.
Macha Meryl, l'épouse de Michel Legrand, était avec Thierry Geffrotin du service culture d'Europe 1. Alors un mot de football pour conclure ce journal, mon cher Mathieu.
Volontiers.
Les qualifications pour l'Euro 2020, victoire hier soir de l'équipe de France, elle a battu l'Islande 4-0. J'ai une question quiz pour vous. Savez-vous où se déroulera l'Euro 2020? Dans quel pays?
Ah, pas du tout, tiens.
Vous l'ignorez?
Non, je l'ignore. Enfin, j'ai pas.
Eh bien, dans 10 pays différents.
Dans 10 pays.
Dans toute l'Europe.
Un festival de pays.
C'est une originalité.
Mosaïque magnifique.
Vous le savez désormais, mon vieux.
Et grâce à vous, David Ducamp, que ferais-je sans vous? C'était le journal de David Ducamp, journaliste ultra polyvalent, puisqu'il peut être à la fois présentateur de journal, éditorialiste politique et visiblement aussi artificier.
Je pense que si tu mets une allumette dans de la nitroglycérine, ça pète pas. À vérifier, mais.
Ouais. Je vous préfère quand même journaliste. Hein. On passe à la météo. Céline Dacosta, quel temps pour ce mardi?
Pas mal ça, la musique de Mission Impossible. Ça me plaît.
Ah,
merci.
Ça vous plaît.
Merci
ça me plaît.
De saluer la qualité des effets sonores de cette émission.
Oui, on aura encore des nuages aujourd'hui qui sont bien présents ce matin du nord-est au centre-est avec des brumes qui vont déborder sur le nord, l'Île-de-France, la région centre. C'est couvert, pluvieux et bien venteux sur la Corse. Ça va d'ailleurs le rester toute la journée. Partout ailleurs, ciel bleu, soleil. Le soleil qui reviendra quand même sur la partie nord du pays cet après-midi. Les températures, on perd quelques degrés par rapport à hier, ça baisse un peu, mais on reste dans la moyenne des normales de saison. 9 à 13 degrés pour la moitié nord cet après-midi, 13 à 17 pour la moitié sud.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
À suivre. Politique, économie, médias, les trois fantastiques vous offrent chaque matin de l'actu une vision différente, parfois subversive, comme hier lorsqu'Axel de Tarlé, le dauphin fou de l'économie, constatant que Nike n'arrivait pas à produire le maillot 2 étoiles des Bleus, a failli, l'espace d'un instant, nous conseiller d'entrer dans l'illégalité.
Bah écoutez, on n'a qu'à acheter. Non, je vais quand même pas faire la pub pour la contrefaçon.
C'est mieux quand même. Ce matin, le dauphin redevient consensuel. Si vous êtes en recherche d'emploi, il vous révèle le meilleur moment pour envoyer votre CV.
Bon réveil à tous, il est 6h40. Il est 6h43, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Cette fois c'est fait, La République En Marche a une tête de liste. Pour l'instant elle est toujours ministre des Affaires Européennes, mais Nathalie Loiseau va démissionner dans les prochaines heures. Une humiliation de plus pour Theresa May, les députés britanniques ont pris le contrôle du calendrier parlementaire du Brexit hier soir. La Première Ministre y était opposée. Trois de ses secrétaires d'État ont carrément démissionné pour pouvoir voter contre elle. Enfin, la visite du président chinois en France suite. Xi Jinping sera face à l'Europe aujourd'hui, rencontre au sommet à Paris avec Emmanuel Macron, Angela Merkel et le président de la Commission Européenne, Jean-Claude Juncker.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Quand je les vois réunis ainsi devant moi, scintillant de vigueur intellectuelle, je me dis au fond qu'il n'y a qu'une musique qui sied à leur entrée. L'As des As. Voici les trois fantastiques. Eva Rock pour les médias, Mickaël Darmon pour la politique, Axel de Tarlé pour l'économie. Axel qui, on le sait, a du mal à digérer son tragique revers humoristique dit du casse-tête de Castaner. On peut le dire, le dauphin d'or a la défaite amère. Sa grande obsession désormais, dévaloriser les tentatives humoristiques des autres journalistes afin peut-être de se sentir moins seul dans le bide. Ainsi, du jeu de mots pourtant astucieux de David Doucan hier.
L'Académie de l'Opéra de Paris a été créée en 2015. Perruquier,
Laurent Perruquier. Enfin... J'ai pas compris Laurent Perruquier.
Perruquier, Laurent Ruquier, Laurent Perruquier.
Ouais, enfin bon, c'est, franchement, c'est pas très drôle, hein.
Mauvais joueur. Pendant qu'Axel se rassure en disant qu'il n'est pas le seul, nous on commence par la politique avec vous, mon cher Mickaël Darmon. À propos du grand débat, on entre désormais dans la période des restitutions et des décisions avec une consigne au sommet du gouvernement. À partir de maintenant, il faut choisir les mots avec beaucoup de prudence.
Et oui, ne dites pas comme en novlangue Macron, nous sommes entrés dans la période diagnosticaire du grand débat, mais plutôt c'est le temps du diagnostic. Ne dites pas non plus, il faudra pérenniser les conférences inversées, mais il faudra bien multiplier les forums d'interpellation citoyenne. Voilà, plus sérieusement, la manière de poser des enjeux sera capitale. C'est ce qu'on se dit actuellement en petit comité dans les réunions avec les responsables de la majorité. Et ils prennent une résolution et ils se demandent entre eux vraiment de prendre une résolution. La plus importante d'entre elles, il faudra parler de manière intelligible. Parce que la prudence se manifeste aussi sur des mesures annoncées comme symboliques et qui, avec le temps, donc sont moins en phase. Exemple, la fameuse réduction du nombre de parlementaires, hein, présentée depuis le début du quinquennat comme étant effectivement la réforme de modernité, puis un petit peu anti-élite. Eh bien, il faut savoir que cette idée, elle a beaucoup moins la cote parce que le grand débat est passé par là. Alors que beaucoup de citoyens reprochent aux élus marcheurs d'être faiblement implantés, est-ce que la réponse est justement de diminuer le nombre d'élus avec le risque de créer des déserts démocratiques? Il serait donc pas étonnant que cette réforme soit moins puissante qu'annoncée.
Pourtant, on présentait souvent cette question comme idéale pour un référendum. Est-ce à dire qu'il n'y aura pas de consultation à l'issue du grand débat?
Alors, il faut savoir que discrètement, derrière les passes d'armes et les postures à cause de l'affaire Benalla, eh bien, les deux présidents du Sénat et de l'Assemblée essayent d'éviter un référendum. Parce qu'en fait, ils craignent le détournement de la question. Mais s'il devait être inévitable, alors il y aurait plutôt une préférence pour une question liée à la transition écologique ou à la fiscalité. Autrement dit, il faudra choisir un référendum sur la fin du monde ou sur la fin du mois. Mi-avril, effectivement, le président devrait restituer dans un discours les grandes décisions et mesures issues des contributions de ce grand débat national. Aussi étonnant que cela puisse paraître, à 7h, les grands choix ne sont pas encore faits. Mais une chose est certaine, il ne faudra pas rater l'énoncé du diagnostic.
Merci beaucoup Mickaël Darmon pour cet éclairage politique. On passe à l'économie avec Axel de Tarlé. Axel qui ce matin va nous aider à refaire, réécrire notre CV. Est-ce un message qu'il nous envoie pour qui va nous être utile peut-être dans un futur proche? En matière de recrutement, mieux vaut envoyer son CV
le mardi. Et c'est un spécialiste des CV qui le dit.
Oui, en fait, c'est un éditeur de logiciels de CV qui s'appelle Tilki, qui vient de publier son baromètre des habitudes des recruteurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en ligne, il a toutes les informations pour voir quand les DRH ouvrent un CV. Il constate que le jour où les DRH ouvrent le plus un CV, c'est le mardi. Et donc, il conseille d'envoyer des CV le mardi. En plus, il y a un deuxième avantage, c'est que en fait, les DRH sont très pris en début et en fin de semaine. Donc, si vous l'envoyez le mardi, vous avez encore une chance qu'il l'ouvre même le mercredi. Vous voyez, en général, il va l'ouvrir dans les 44 heures qui suivent son envoi, donc dans les deux jours. Donc, le mardi est jugé le jour idéal. Alors, il y a plein de petites astuces comme ça qui permettent de comprendre ce qu'il faut faire pour faire un bon CV.
On l'envoie le mardi matin. Hein,
voilà, on l'envoie le mardi matin. Alors, deuxième astuce. Là, j'ai une petite question. Savez-vous, à votre avis, combien de temps un DRH va-t-il passer sur votre CV ? Combien de temps va-t-il y consacrer ?
12 secondes.
20 secondes.
Non, quand même, peu plus. C'est leur métier quand même. 34 secondes.
Oh, c'est rien du tout, 34.
C'est quand même pas beaucoup. Et alors, deuxième tendance lourde, de plus en plus, les DRH lisent votre CV sur une tablette, voire sur un téléphone portable. Donc, je vous imaginez la scène, quand on lit un CV sur un téléphone portable pendant une trentaine de secondes, eh bien, mieux vaut que le CV soit court et clair. Et ça, c'est le grand conseil des DRH. Quand vous faites un CV, ne mettez pas tout. Il faut éviter l'effet catalogue. Par exemple, je suis sûr que vous aurez envie de mettre à la rubrique hobby, que vous aimez l'accordéon, le jogging.
Vaut mieux éviter ça.
Et alors, sauf si, par exemple, c'est pour travailler chez un caviste, vous pouvez dire que vous aimez l'œnologie, vous voyez. j'ai pris un mauvais exemple.
C'est le meilleur conseil de l'année.
J'ai le temps de vous livrer d'autres astuces. Ça peut vous être utile d'envoyer des CV.
Allez-y, alors dites-nous.
Alors, par exemple, il faut commencer par la fin, ne pas faire ordre chronologique, genre en 87, j'ai commencé comme stagiaire. Ne pas mentir, ne pas gonfler ses compétences, parce que les DRH ont des astuces et très vite savent repérer qui ment et qui ne ment pas. Et le dernier petit conseil, se relire pour éviter les fautes d'orthographe.
Je me souviens toujours de la lettre de motivation d'Eva, j'aimerais beaucoup travailler avec toi, j'aimerais beaucoup, et accent aigu. Tout de suite, je l'ai recalé. Hein. Je ne sais pas pourquoi je l'ai pris finalement.
Oui, c'est vrai. Pourquoi je suis là?
C'est vrai. Une confusion. Eva, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir?
Alors, beaucoup de choses. Plusieurs programmes méritent l'attention ce soir. Alors, à commencer par le documentaire diffusé sur France 5 à 20h55, Séropositif, le virus de la discrimination. C'est un film réalisé par notre confrère Olivier Delacroix, qui consacrera d'ailleurs son émission à partir de 15h sur Europe 1 à ce thème du rejet et d'exclusion pour ces hommes et ces femmes séropositifs. Chaque témoignage est très fort, bouleversant, je vous le recommande vraiment. Et puis ce soir, l'événement média, c'est sur M6. La chaîne lance sa nouvelle série française adaptée d'un polar à succès de Michel Bussy, Un avion sans aile. Alors, sans aile, c'est E2LE. En 1977, un avion s'écrase. Seule survivante de ce crash, c'est un bébé de 3 mois. Sauf que deux familles vont réclamer cette petite fille. Une riche, l'autre est plus modeste. Et 20 ans plus tard, le policier qui était chargé de l'affaire est assassiné. La jeune femme rescapée décide d'enquêter.
Je t'imagine, toute ma vie on m'a répété que j'étais la petite fille de Pierre et Nicole Vitral. Toute ma vie. Et je me suis faite à cette idée. Mais c'est vrai qu'au fond, j'ai une sorte de doute, toujours.
De doute? Pourquoi?
Mais parce que... je les aime, tu vois. Mais c'est vrai que je me suis toujours sentie un peu différente, tu vois.
C'est un polar porté par une très jolie distribution, avec notamment Bruno Solo dans le rôle du flic, Pénélope Rose Lévesque, Yanis Lesper, Agnès Soral, mais c'est un peu trop formaté. Ça mériterait des dialogues et surtout une mise en scène digne de ce nom. Les deux premiers des quatre épisodes sont diffusés ce soir. Et puis, si vous préférez la musique et les arts, c'est sur France 2 qu'il faut être, avec le deuxième numéro du Grand Échiquier en direct, présenté par Anne-Sophie Lapix, avec la venue notamment de Renaud Capuçon, Angèle, Jeanne Birkin, Vincent Dedienne et bien d'autres. Et la soirée va se poursuivre avec un documentaire réjouissant qui s'appelle Opéra Academy. Pendant un an, la réalisatrice Carole Grigy a suivi une vingtaine de jeunes artistes venus du monde entier, chanteurs et musiciens, qui pendant 10 mois, ont la chance de suivre une formation à l'Opéra de Paris. Ils sont l'excellence, ils sont prêts à quitter famille et amis pour ces quelques mois dans la prestigieuse institution, comme Farah, venue du Liban.
C'est ma vie, ce métier. Je trouve que je ne peux pas changer ça. On ne peut pas changer ça. Si tu aimes d'être sur scène et de jouer de rôle et de chanter, et de... C'est... tu gagnes aussi d'autres choses.
Ah. Ça s'appelle Opéra Academy. Et sincèrement, je me suis demandé si derrière ces artistes, il n'y avait pas une Nathalie Dessay ou le prochain Placido Domingo qui se cachait. C'est à voir ce soir à 23h35, c'était un peu tard, ou en replay.
Mais c'est encore trop tard. Dès que c'est de l'opéra, c'est très tard.
Mais oui, c'est en replay. Ou après, eh bien, après le Grand Échiquier aussi, c'est pas mal.
C'est vrai, comme voilà. Ça on enchaîne et on passe une
exactement.
Belle soirée. Merci beaucoup, Eva Rock. Merci, Axel de Tarlet, Mickaël Darmon. L'équipe des Trois Fantastiques sera de retour demain aux alentours de 7h moins le quart avec le nouveau CV.
Europe 1.
Il est 6h51, Mathieu Noël.
Ma chère Céline, oui. Je vois un nuage de tristesse passer devant vos yeux. Oui, Debout les copains va bientôt se terminer, mais nous cédons la place à celui qui est plus qu'un journaliste, une légende.
Comme, comment elle s'appelle, Chantal Goya.
Oui, bon, ça aurait mieux marché que Nana Mouskouri en l'occurrence, mais c'est un peu ça. Nikos Aliagas arrive, précédé du traditionnel débrief de sa matinale. Avant de nous quitter, Axel, comme je sais que vous avez officié dans un groupe de rock dans votre jeunesse, 5 secondes de Freddie Mercury.
Another one bad the dust. Another one bad the dust.
Thank you, Freddy. Ah, j'ai fermé les yeux, j'étais à Wembley en 86.
Il est 6h52. Il est 6h54, Mathieu Noël.
L'heure de la quille a sonné pour Debout les copains, mais réjouissez-vous car vous le savez, à cette heure-ci, chaque matin, le meilleur est à venir. Le débrief de la matinale de Nikos Aliagas, l'homme qui parlait 1000 langues. Grec. Caramou. Anglais.
Absolutely, my friend.
Espagnol.
Me gusta tanto la cultura hispánica.
Oui, toutes les langues, sauf la seule qui nous aurait été utile en ce moment, le chinois, pour la visite du président. Comment déjà?
Le président Xi Jinping et le président chinois Xi Jinping. Je crois qu'il faut dire Xi pour le prénom. Xi, voilà. Pour le président chinois Xi Jinping.
Oui, Xi Jinping, Xi Jinping ou peut-être Xi Jinping, au fond, lui seul le sait. Hein, qui a dû être heureux du traitement qu'on réservait hier à la couverture presse de son séjour, puisque non content d'avoir bien prononcé son nom, on a également réussi à déjouer tous les clichés sur la Chine.
Je vais faire une revue de presse à la sauce Confucius ce matin.
Très remontée la sauce, très pimentée ou pas?
Sauce soja.
Alors, on a filtré son appel, mais Xi Jinping a appelé le 3921 pour réagir à la revue de presse de David Abiker. Il a adoré le coup de la sauce soja. David Abiker est un journaliste formidable qui mérite tout notre respect. Néanmoins, s'il lui venait l'idée d'entreprendre en région Chine, il n'est pas exclu qu'il en reparte sous la forme de baozi, des petites brioches farcies à la viande. À part ce léger incident diplomatique, donc aucun gros souci sur la matinale d'hier. Alors oui, quelques pisse vinaigre reprocheront à Lolo Cabrol une vanne un peu borderline de nos jours, mais juridiquement inattaquable, puisque Lolo a pris le soin d'évoquer l'esprit de Coluche avant de la faire.
Vous savez ce qu'aurait dit Coluche? Il dit la mère et la fille devant, c'est la cabine de pelotage.
C'est pas lui, c'est Coluche.
Imparable! Bien joué, Lolo! Enfin, un mot de notre invité, de votre invité, Nikos, de 7h45, le président de l'IFRI, qui, comme on dit trivialement, n'était pas venu là pour acheter du terrain. Vous aviez pour projet de lui poser des questions de fond, hein, et lui, il avait pour projet de faire son autopromo, ce qu'il a fait avec le brio d'un Pierre Belmar à la grande époque du télé-shopping, frontalement, sans prendre de pincettes.
Aujourd'hui, on a l'impression que la Chine est quasiment devenue, entre guillemets, l'ennemi qui met en péril les intérêts européens. Est-ce que c'est le cas et pourquoi ce changement?
Écoutez, je pense d'abord que si vous m'avez invité, c'est parce que on va célébrer le 40e anniversaire de l'IFRI et j'ai choisi comme thème pour une grande journée à la Sorbonne le 10 avril l'avenir de l'Europe face à la compétition sino-américaine.
Voilà.
Voilà, merci Pierre Bernard pour cet éclairage sur la Chine.
C'est dingue, hein. En fait, ça rend pas service, faut pas le faire. Parce que je l'aurais fait à la fin.
Oui, vous l'auriez fait à la fin, ça je vous connais, évidemment.
Parfois, il faut avoir confiance à l'interlocuteur.
Exactement.
Et à l'intervieweur, comme j'ai confiance en vous tous les matins. Merci Mathieu Noël. Merci Eva Rock.
Mathieu Noël, tous les jours de 5h à 7h sur Europe 1.